Chapitre 2. La semaine où le pape Jules mourut pour la 9e fois et où le père Duret fut assassiné pour la 50e fois, Aîné et moi étions à 160 000 années-lumière de là, sur la planète Terre kidnappée, l'ancienne Terre, la vraie. Elle tournait autour d'une étoile de type G qui n'était pas le Soleil, dans le petit nuage de Magellan, galaxie qui n'était pas celle de la Terre. Ce fut une étrange semaine pour nous. Nous ignorions que le pape était mort, bien sûr, puisqu'il n'y avait aucune communication entre cette terre transférée et l'espace de la Pax, sauf les portails distants en sommeil. Je sais maintenant qu'Aînée fut avertie du décès du pape par des moyens que nous ne soupçonnions pas alors, mais elle ne nous parla pas des événements survenus dans l'espace de la Pax, et personne ne pensa à la questionner. Notre vie sur Terre durant ces années d'exil était simple, paisible et profonde d'une façon qu'il m'est difficile de comprendre aujourd'hui et dont le souvenir est presque douloureux. En tout cas, cette semaine-là avait été profonde, mais ni simple ni paisible. Le vieil architecte avec lequel Aîné étudiait depuis 4 ans était mort le lundi et ses funérailles s'étaient déroulées hâtivement et tristement dans le désert le mardi, un jour venteux. Le mercredi, Aîné eut 16 ans, mais l'événement fut obscurci par le voile de chagrin et de confusion qui enveloppait la confrérie de Taliesin. Aussi, seul Abétic et moi essayâmes de célébrer cette fête avec elle. L'androïde avait confectionné un gâteau au chocolat, dessert préféré d'Aîné, et j'avais travaillé pendant des jours à sculpter au couteau une canne taillée dans une branche robuste, ramassée lors d'un des pique-niques improvisés par le vieil architecte dans les montagnes voisines. Ce soir-là, nous avons mangé le gâteau et bu du champagne dans le beau petit abri d'apprenti construit par Aîné dans le désert, mais elle était abattue et distraite à cause de la mort du vieil homme et du désarroi de la confrérie. Je sais maintenant qu'une grande partie de son inattention était due à sa connaissance de la mort du pape, des violents événements qui se profilaient à l'horizon de notre avenir, et de la fin des 4 années les plus paisibles que nous ayons jamais connues ensemble. Je me souviens de la conversation que nous eûmes le soir du 16e anniversaire d'Aîné. La nuit tomba tôt, l'air était glacé. Autour du confortable foyer en toile et en pierre qu'elle avait édifié 4 ans plus tôt pour son entrée en apprentissage, la poussière soufflait, les buissons de sauge et les yuccas se tordaient et crissaient dans la poigne du vent. Assis près de la lanterne suintante, nous avions échangé nos verres de champagne pour des tasses de thé chaud et parlions à voix basse dans le sifflement du sable qui fouettait la toile. « C'est étrange, » dis-je. Nous savions qu'il était vieux et malade, mais personne ne semblait croire qu'il mourrait un jour. Je parlais du vieil architecte, bien sûr, et non du pape lointain qui ne signifiait pas grand-chose pour nous. Et comme nous tous sur la terre exilée, le maître d'Aîné ne portait pas de cruciforme. Contrairement à celle du pape, sa mort était définitive.
« Lui devait le savoir, » dit doucement Aîné. « Il a parlé seul à seul avec chacun de ses apprentis durant le mois dernier, pour leur transmettre quelques bribes de sagesse. »«
Quelles bribes de sagesse a-t-il partagé avec toi ? » ai-je demandé. « Je veux dire si ce n'est pas un secret ou quelque chose de trop personnel. » Aîné sourit par-dessus le bord fumant de sa tasse.
Il m'a rappelé qu'un commanditaire est toujours d'accord pour payer le double de la somme proposée à la commande si on lui signifie des dépenses supplémentaires peu à peu, une fois que la construction est commencée et que le bâtiment prend forme. Il a dit qu'on en était alors au point de non-retour, que le client était ferré comme une truite au bout d'une ligne de 6 livres.
Abétic et moi avons ri. Ce n'était pas un rire irrespectueux. Le vieil architecte avait été un de ces êtres rares qui combinent un vrai génie à une personnalité écrasante, mais même si nous pensions à lui avec tristesse et affection, nous savions reconnaître l'égoïsme et la sournoiserie qui faisaient partie de son caractère. Et je ne fais pas de cachotterie en l'appelant le vieil architecte. La personnalité de ce cybride avait pour modèle un être humain de la pré-Égire appelé Frank Lloyd Wright, qui œuvra au 19e et au 20e siècle après Jésus-Christ. Alors que tous les membres de la confrérie taliésine, y compris les plus vieux apprentis qui avaient son âge, l'appelaient respectueusement Monsieur Wright, et je pensais toujours à lui comme au vieil architecte, à cause de ce que m'avait dit Aîné de son futur mentor,
avant que nous arrivions ici sur l'ancienne terre. » Comme s'il avait suivi la même ligne de pensée, Abétik dit « C'est bizarre, non ?»«
Quoi ?»
demanda Aîné. L'androïde sourit et se frotta le bras gauche, juste au-dessous du coude, là où il se terminait en moignon. C'est une habitude qu'il avait prise depuis ces dernières années. L'autochirurgien du vaisseau de descente qui nous avait amené du bosquet de Dieu par le portail d'Istrance avait maintenu l'androïde en vie, mais n'avait pu faire repousser son bras tant sa chimie organique était différente.
Je veux dire que malgré l'empire de l'Église sur les affaires de l'humanité, la question « est-ce que les êtres humains ont une âme qui abandonne le corps après la mort ?» n'a toujours pas été clairement tranchée. Cependant, dans le cas de Ashright, nous savons que sa personnalité hybride continue à exister hors de son corps, ou du moins existera un certain temps après sa mort.
« En sommes-nous certains ?» demandai-je. Le thé était chaud et bon. Aîné et moi l'avions acheté, en réalité nous avions fait du troc pour l'avoir, au marché indien qui se tenait dans le désert, à l'endroit où se dressait autrefois la cité de Scottsdale. Ce fut Aîné qui répondit à ma question.
Oui, la personnalité du cybride de mon père a survécu à la destruction de son corps et a été entreposée dans une boucle de Schrön implantée dans le crâne de ma mère. Ensuite, nous savons qu'il a mené une existence indépendante dans la mégasphère, puis il a résidé un certain temps dans le vaisseau du consul. Une personnalité cybride survit comme une espèce de front d'onde holistique qui se propage dans les matrices de l'infoplan ou de la mégasphère jusqu'à ce qu'elle retourne à la source des IA, au centre.
J'avais su cela, mais ne l'avais jamais compris. « Bon, » dis-je. « Mais où est allé le front d'onde de la personnalité d'origine IA de Ashright ? Il n'existe sûrement aucune connexion avec le centre dans le nuage de Magellan. Il n'y a pas d'infosphère ici. » Aîné posa sa tasse vide.
« Il doit y en avoir une. Sinon, Ashright et les autres personnalités hybrides reconstruites, rassemblées ici sur Terre, ne pourraient pas exister. Souvenez-vous, le technocentre avait fait de l'espace de Planck entre les portails d'Istrance le milieu et la cachette des IA jusqu'à ce que l'hégémonie mourante les détruise.
L'espace qui lit, dis-je, tirant cette phrase des cantos du vieux poète.
Oui. Bien que j'ai toujours trouvé ce nom bêta.
Quelle que soit l'appellation qu'on lui ait donnée, je ne comprends pas comment il peut s'étendre jusqu'ici, une autre galaxie.
Le milieu que le centre utilisait pour les distances s'étend partout,
dit Aîné.
Il pénètre l'espace et le temps.
Ma jeune amie fronça les sourcils.
Non, ce n'est pas exact. L'espace et le temps sont liés grâce à lui, en lui. L'espace qui lit transcende l'espace et le temps.
Je regardais autour de nous. La lumière de la lanterne suffisait à remplir la petite tente, mais dehors il faisait noir et le vent hurlait. Alors le centre peut se manifester ici ? Aîné fit non de la tête. Nous avions déjà discuté de cela avant. Je n'avais pas compris le concept. Je ne le comprenais toujours pas.
Ces hybrides sont connectés à des IA qui ne font pas vraiment partie du centre. La persona de Ashright n'en faisait pas partie. Mon père, le second hybride de Kitz, non plus.
C'était cela que je n'avais jamais compris. Les Kantos disent que les hybrides de Kitz, y compris ton père, ont été créés par Humon, une IA du centre. Humon a révélé à ton père que les hybrides étaient une expérience du centre. Aîné se leva pour aller à la porte de son abri d'apprenti. La toile de chaque côté ondulait sous l'effet du vent, mais gardait sa forme et empêchait le sable d'entrer.
Oncle Martin a écrit les Kantos. Il s'est efforcé de dire la vérité. Mais certains facteurs lui ont échappé.
À moi aussi, dis-je en laissant tomber ce sujet. Je rejoignis Aîné et la pris par l'épaule, sentant de subtiles modifications dans son dos et son bras depuis la première fois où je l'avais serré dans mes bras, 4 ans plus tôt.
Bon anniversaire, ma grande.
Elle leva les yeux vers moi et posa la tête sur ma poitrine.
Merci, Roll.
D'autres changements s'étaient opérés dans le corps de ma jeune amie depuis notre première rencontre. À cette époque, elle venait juste d'avoir 12 ans standard.
Je savais qu'elle était devenue une femme pendant toutes ces années, mais en dépit de la rondeur de ses hanches et de ses seins bien visibles sous le vieux sweatshirt qu'elle portait, je ne la considérais toujours pas comme telle. C'était aînée. Les yeux marrons lumineux restaient les mêmes, intelligents, questionneurs, un peu tristes à cause de quelques savoirs secrets, et l'impression d'être physiquement touchée lorsqu'elle tournait vers vous son regard attentif demeurait toujours aussi forte. Ses cheveux avaient foncé au fil des dernières années, et elle les avait coupés au printemps dernier. À présent, ils étaient plus courts que les miens quand j'étais soldat sur Hyperion, une douzaine d'années plus tôt, et lorsque je posais la main sur sa tête, il dépassait à peine de mes doigts, mais je pouvais y voir encore quelques reflets blonds dus aux longues journées de travail sous le soleil de l'Arizona. Tandis que nous restions ainsi à écouter la poussière racler la toile, l'ombre silencieuse d'Abétique derrière nous, Aînée prit ma main dans les siennes. Elle avait 16 ans aujourd'hui. C'était une jeune femme et non plus une petite fille, mais ses mains étaient toujours minuscules dans mon énorme paume.
Roll ? Je la regardai et attendis. « Tu veux bien faire quelque chose pour moi ? »
dit-elle d'une voix douce, très douce. Oui, je n'avais pas hésité. Elle me serra la main et son regard plongea directement en moi.
« Tu veux bien faire quelque chose pour moi demain ?»«
Oui. » Ni l'intensité de son regard, ni la pression de sa main ne se relâchèrent.
« Ferais-tu n'importe quoi pour moi ?»
Cette fois, j'hésitais. Je savais ce qu'un tel vœu entraînait, même si cet étrange et merveilleux enfant ne m'avait jamais demandé de faire quelque chose pour elle, ne m'avait jamais supplié de l'accompagner dans cette folle odyssée. Cette promesse, je l'avais faite au vieux poète, Martin Silenus, avant même de la rencontrer. Je savais que par bonne ou mauvaise conscience, je ne pourrais pas m'obliger à faire n'importe quoi. Mais la principale des choses que j'étais incapable de faire, c'était de dire non à Aînée.
« Oui, dis-je. Je ferai tout ce que tu me demanderas. »
À cet instant, je compris que j'étais perdu et ressuscité. Aînée ne dit rien, se contenta de hocher la tête, me serra la main une dernière fois et se tourna vers la lumière, le gâteau et notre ami androïde. Le lendemain, j'allais apprendre en quoi consistait sa requête et combien il me serait difficile d'honorer ma promesse. Je vais m'arrêter un instant. Je m'aperçois que vous ne savez pas grand-chose sur moi, à moins d'avoir lu les 100 premières pages de mon histoire qui, parce que j'ai dû recycler le micro-vélin sur lequel je les ai écrites, n'existe plus que dans la mémoire de ce scripteur. J'ai dit la vérité dans ces pages perdues, ou du moins la vérité telle que je la connaissais alors. Ou bien, disons plutôt que j'ai tenté de dire la vérité, la plupart du temps. Après avoir recyclé les pages de micro-vélin de cette première tentative de narration de l'histoire d'Aînée, et parce que le scripteur est toujours resté sous mes yeux, je dois estimer que personne ne les a lues. Le fait qu'elles aient été écrites dans l'ovoïde d'exécution d'une boîte à chat de Schrödinger en orbite d'exil autour du monde stérile d'Armagast, la boîte à chat n'étant guère plus qu'une coquille d'énergie en position fixe contenant mon atmosphère, l'équipement recyclant l'air et la nourriture, un lit, une table, un scripteur et une ampoule de gaz de cyanure attendant d'être ouverte lors de l'émission aléatoire d'une particule par un isotope, semble garantir que vous n'avez pas dû lire ces pages. Mais je n'en suis pas certain. D'étranges choses se produisaient alors. D'étranges choses sont survenues depuis. Je réserverai mon jugement sur le fait que ces pages, et celles-ci, ont peut-être été ou seront un jour lues. En attendant, je vais me présenter de nouveau. Je m'appelle Roll Endymion. Mon prénom fut porté par des chevaliers de l'ancienne terre. Comme eux, je poursuis une curieuse quête. Et mon nom de famille tire son origine d'une ville universitaire abandonnée sur ce trou perdu qu'est le monde d'Hyperion. Je dois mettre un bémol au mot « abandonné », car c'est dans cette cité en quarantaine que j'ai rencontré le vieux poète, Martin Silenus, l'ancien auteur du poème épique banni, les Cantos, et c'est là que mon aventure commença. J'utilise le mot « aventure » avec une certaine ironie, peut-être dans le sens où l'on dit que toute vie est une aventure. Car, S'il est vrai que le voyage commença comme une aventure, ma tentative pour arracher une aînée de 12 ans à la Pax et l'escorter saine et sauve jusqu'à la lointaine ancienne terre, il est devenu depuis toute une vie d'amour, de deuil et de merveille. En tout cas, à l'époque que je narre en ce moment, la semaine de la mort du pape, de la mort du vieil architecte et du 16e anniversaire d'aînée en exil, j'avais 32 ans, j'étais encore grand, fort, inexpérimenté, j'avais surtout appris à chasser, à me vanter et à regarder les autres commander, et j'étais sur le point de tomber amoureux à jamais d'une très jeune fille que j'avais protégée comme une petite sœur et qui, du jour au lendemain, semblait-il, était devenue une femme que je considérais, pour le moment, comme une amie. Je devrais aussi dire que les autres choses que je relate ici, les événements qui se passent dans l'espace de la Pax, le meurtre de Paul Duret, la récupération d'une chose femelle appelée Radamante Némès, les pensées du père Federico de Soya, ne sont pas présumées ou extrapolées ou inventées comme dans les vieux romans du temps de Martin Silenus. Je connais les pensées du père de Soya et les vêtements que portait ce jour-là le conseiller Albedo, non parce que je suis omniscient, mais à cause d'événements et de révélations ultérieures qui m'ont donné accès à cette omniscience. Ce sera éclairci plus tard. Du moins, je l'espère. Je vous présente mes excuses pour cette réintroduction maladroite. Le modèle du père Sibrit d'Aîné, un poète appelé John Keats, dit dans sa dernière lettre d'adieu à ses amis « Je n'ai toujours salué qu'avec maladresse. » En fait, moi aussi. Que ce soit au moment de partir ou pour accueillir quelqu'un ou, comme c'est peut-être le cas ici, lors d'une réunion improbable. Aussi, je vais revenir à mes souvenirs et réclamer votre indulgence s'il vous semble dénué de sens dans cette première tentative que je fais pour les formuler et les partager avec vous. Le vent hurla et la tempête de sable souffla pendant les 3 jours et 3 nuits qui suivirent le 16e anniversaire d'aîné. La jeune fille s'absenta durant tout ce temps. En 4 ans, je m'étais habitué à ces temps morts, comme elle les appelait, et généralement, je ne me tracassais plus comme je l'avais fait les premières fois où elle avait disparu plusieurs jours de suite. Cette fois-là, cependant, je fus plus inquiet que d'ordinaire. La mort du vieil architecte avait laissé les 27 apprentis et la 60aine de personnes qui les accompagnaient, ce que lui appelait Taliesin West, troublés et anxieux. La tempête de sable ne faisait, comme toujours, qu'augmenter cette inquiétude. Les familles et le personnel d'accompagnement vivaient dans l'une des résidences en maçonnerie du désert que Ash Wright avait fait construire à ses élèves au sud des bâtiments principaux. Et le complexe du camp lui-même ressemblait presque à une forteresse, avec ses murailles, ses cours intérieures et ses passages couverts, faits pour courir précipitamment entre les bâtiments pendant une tempête de sable. Pourtant, chaque jour qui passait sans soleil ou sans aîné me rendait de plus en plus nerveux. Plusieurs fois par 24 heures, j'allais à son abri d'apprenti. C'était le plus éloigné du complexe, presque à 400 mètres au nord, vers les montagnes. Elle n'y était jamais. Aîné avait laissé la porte grande ouverte et un petit mot me disant de ne pas m'inquiéter, qu'il ne s'agissait que d'une de ses excursions et qu'elle avait emporté beaucoup d'eau. Mais chaque fois que j'y allais, j'appréciais encore plus son abri. 4 ans auparavant, quand Aîné et moi nous arrivâmes dans un vaisseau de descente dérobé à un astronef militaire de la Pax, tous deux épuisés, couverts d'hématomes et de brûlures, sans parler de l'androïde encore confié à l'autochirurgien du bord, le vieil architecte et les apprentis nous accueillirent chaleureusement. Ash Wright ne parut pas surpris qu'une enfant de 12 ans soit passée de monde en monde par les distances, dans le but de le prier de la prendre pour apprenti. Je me souviens que ce premier jour, quand le vieil architecte lui demanda quelles étaient ses connaissances en architecture, Aîné répliqua calmement « Je n'en ai aucune, mais je sais que vous êtes celui avec lequel je dois apprendre. » Elle avait manifestement donné la bonne réponse. Ash Wright lui dit que tous les apprentis arrivés avant elle, 26, comme nous l'apprîmes ensuite, avaient dû concevoir et construire leur propre abri dans le désert en guise d'examen d'entrée. Il lui offrit des matériaux grossiers provenant du complexe, de la toile, des pierres, du ciment, un peu de bois de construction inutilisé, mais la conception et le travail revenaient à la jeune fille. Avant de se mettre à l'œuvre, n'étant pas apprenti, je dus me contenter d'une tente proche du complexe principal. Aîné et moi fîmes le tour des abris des autres apprentis. La plupart étaient des variations sur les cabanes-tentes. Ils étaient commodes, et certains possédaient un certain style. L'un d'eux surtout affichait un beau flamboiement d'esthétique, mais, comme Aîné me le fit remarquer, il devait laisser entrer le sable et la pluie au plus léger souffle de vent. Pourtant, aucun n'était particulièrement mémorable. Aîné travailla 11 jours à son abri. Je l'aidais à soulever les matériaux lourds et à creuser l'excavation. Abétique, pas encore guéri à ce moment, resta d'abord dans l'auto-chirurgien, puis fit un séjour à l'infirmerie du complexe. Mais la petite fille dessina tous les plans et fit la plus grande partie du travail. Il en résulta ce merveilleux abri auquel je rendis visite 4 fois par jour durant sa dernière retraite dans le désert. Aîné commença par creuser pour que les parties essentielles soient en dessous du niveau du désert. Puis elle mit les dalles en place en s'assurant qu'elles s'imbriquaient étroitement afin de créer un sol lisse. Sur les pierres, elle disposa de petits tapis et des couvertures aux brillantes couleurs troquées au marché indien qui se tenait à 25 kilomètres de là. Autour de l'excavation de sa demeure, elle édifia des murs 1 mètre de haut, mais comme la pièce principale se trouvait en contrebas, ils paraissaient plus hauts. Ils étaient faits de la même grossière maçonnerie du désert utilisée par Ashright pour construire les murs et la superstructure des bâtiments du complexe principal. Et Aîné se servit de la même technique, bien qu'elle ne l'ait jamais entendu la décrire. D'abord, elle ramassa des pierres dans le désert et les nombreux arroyos qui entouraient le complexe édifié en haut de la colline. C'étaient des rochers de toutes les tailles et de toutes les couleurs, violet, noir, rouille et terre de sienne brûlée, dont certains portaient des pétroglyphes ou des fossiles. Lorsqu'elle les eut rassemblés, Aîné fabriqua des coffrages en bois et coucha les plus gros dedans, leur face plate contre celle intérieure du coffrage. Elle passa ensuite des jours au soleil brûlant à pelleter du sable dans les lits des cours d'eau à sec, à le ramener sur son chantier dans une brouette, et à le mélanger avec du mortier pour faire le béton qui, en durcissant, maintiendrait les pierres en place. C'était un mélange grossier pierre-ciment, la maçonnerie du désert, comme l'appelait Ashright, mais étrangement beau, car les pierres colorées restaient visibles à la surface du ciment constellé de fissures et riche de différentes textures. Une fois en place, les murs d'environ 1 mètre de haut furent assez épais pour protéger de la chaleur du désert pendant le jour et pour conserver la chaleur interne durant la nuit. L'abri d'Aîné était plus complexe qu'il n'apparaissait à première vue. Il me fallut des mois avant d'apprécier les astuces de sa conception. On se baissait pour pénétrer dans le vestibule, porte cochère de pierre et de toile, dont les 3 larges marches descendaient en tournant jusqu'au portail de bois et de maçonnerie qui servait d'entrée à la pièce principale. Ce vestibule agissait comme une sorte de sas, empêchant le sable du désert et la rigueur du climat de pénétrer à l'intérieur. La manière dont elle avait tendu la toile, presque comme des phoques imbriqués, améliorait l'effet du sas. La pièce principale ne mesurait que 3 mètres sur 5, mais semblait bien plus grande. Aîné avait créé un coin salle à manger salon avec des bancs encastrés autour d'une table, simple pierre surélevée, puis disposé d'autres niches et sièges de pierre près d'un foyer construit dans le mur nord de l'abri. C'était une vraie cheminée de pierre qui ne jouxtait nulle part la toile ou le bois. Entre les murs de pierre et de tissu, à hauteur d'œil lorsqu'on était assis, Aîné avait ménagé des fenêtres grillagées tout le long des murs nord et sud. On pouvait aveugler ces fentes panoramiques avec des rideaux et des volets en bois que l'on manipulait de l'intérieur. Au plafond, elle s'était servie de vieilles tringles en fibre de verre trouvées dans le dépotoir du complexe pour draper la toile en arc harmonieux, en pic inattendu, en voûte de cathédrale et en drôle de niche aux nombreux replis. Elle s'était façonné une chambre à coucher séparée de la pièce principale par 2 marches tournant selon un angle de 60 degrés. Toute l'alcôve était encastrée dans la pente qui s'élevait doucement et s'appuyait contre un énorme rocher qu'elle avait trouvé sur le site. Il n'y avait là ni eau courante ni plomberie, nous utilisions tous les douches et les toilettes communautaires dans l'annexe du complexe, mais Aîné avait fabriqué une jolie baignoire et un petit lavabo en pierre près de son lit, simple plateforme en contreplaqué avec un matelas et des couvertures. Et, plusieurs fois par semaine, Elle faisait chauffer de l'eau dans la grande cuisine et la transportait dans son abri, seau après seau, pour prendre un bain chaud. La lumière qui traversait les plafonds et les murs de toile avait des teintes chaudes au lever du soleil, jaune à midi, orange le soir. En plus, Aîné avait attentivement situé l'abri par rapport aux saguaros, aux figuiers de Barbarie et aux cactus sumac de façon que leurs ombres tombent sur les divers pans de toile à différentes heures du jour. C'était un lieu confortable, plaisant et indescriptiblement vide lorsque ma jeune amie était absente. J'ai déjà dit que les apprentis et le personnel d'accompagnement étaient inquiets depuis la mort du vieil architecte. Affolé serait plus exact. Je passais la plus grande partie des 3 jours d'absence d'aîné à écouter les bredouillements angoissés de presque 90 personnes. Jamais ensemble, puisque même pour le dîner, on se succédait en équipe espacée, Ashright n'aimant pas la foule. Et le passage des jours plus la tempête de sable ne firent qu'accroître leur affolement. L'absence d'aîné tenait une large part dans cette hystérie. C'était la plus jeune apprentie de Taliesin, le plus jeune membre de la communauté en fait, mais les autres avaient pris l'habitude de lui demander son avis et de l'écouter lorsqu'elle parlait. En une semaine, ils avaient perdu à la fois leur mentor et leur guide. Le 4e matin après son anniversaire, la tempête de sable s'apaisa et Aîné reparut. Il se trouva que j'étais en train de faire mon jogging juste après le lever du soleil, et je la vis arriver dans le désert venant des monts McDowell. Elle se détachait dans la lumière matinale, mince silhouette aux cheveux courts contre l'éclat de la couronne solaire, et je pensais alors à la première fois où je la vis dans la vallée des tombeaux du temps sur Hyperion. Lorsqu'elle m'aperçut, Aîné me fit un grand sourire.
« Salut, Beau !»
cria-t-elle. C'était une vieille plaisanterie tirée d'un livre qu'elle avait lu lorsqu'elle était petite.
« Salut, éclaireur !»
répondis-je en adoptant le même langage. Nous nous arrêtâmes lorsque nous fûmes à 5 pas l'un de l'autre. J'avais une envie folle de l'étreindre, de la serrer dans mes bras, de la supplier de ne plus jamais disparaître.
« Comment vont les soldats ?»
demanda Aîné. Je voyais qu'en dépit de sa promesse, elle jeûnait depuis 3 jours. Elle avait toujours été mince, mais maintenant ses côtes étaient presque visibles sous sa fine chemise en coton. Ses lèvres étaient sèches et crevassées.
« Attristé ?»«
Il chie des briques, » répondis-je. Pendant des années, j'avais évité d'utiliser mon langage de garde nationale pour parler à la petite fille, mais elle avait 16 ans maintenant. Et depuis toujours, elle utilisait le vocabulaire le plus salé que je connaisse. Aîné souriait. La lumière étincelante illuminait les traînées de sable dans ses cheveux courts.
C'est plutôt bon pour une équipe d'architectes, je suppose.
Je me frottai le menton et sentis une barbe de plusieurs jours. Sérieusement, ma grande, ils sont joliment bouleversés.
Ouais. Ils ne savent pas quoi faire ni où aller maintenant que Ashright est parti.
Elle plissa les yeux pour regarder le complexe de la confrérie qui ne révélait que quelques bribes asymétriques de pierres et de toiles à peine visibles au-dessus des cactus et de la brousse. La lumière du soleil se reflétait sur des fenêtres invisibles et sur l'une des fontaines.
« Convoquons tout le monde dans le pavillon de musique et parlons !»
dit Aîné, qui s'avança à grands pas vers Taliesin. Ainsi commença notre dernier jour ensemble sur la Terre. Ici, je vais m'interrompre. J'entends ma voix dans le scripteur et je me souviens de cette pause dans le récit à cet endroit. Ce que je voulais faire, c'était tout raconter des 4 années de notre exil sur l'ancienne Terre, tout sur les apprentis et les autres membres de la confrérie Taliesin, tout sur le vieil architecte, ses caprices et ses petites cruautés, son intelligence supérieure et ses enthousiasmes enfantins. Je voulais rapporter les nombreuses conversations avec Aîné pendant ces 48 mois en temps local, qui, je n'ai jamais cessé de m'en étonner, correspondaient parfaitement au mois standard de l'hégémonie et de la Pax, ainsi que ma lente compréhension de ses incroyables capacités et intuitions. Pour finir, je voulais narrer toutes mes excursions, mon périple autour de la Terre dans le vaisseau de descente, mes longues randonnées motorisées en Amérique du Nord, mes contacts éphémères avec les autres îlots d'humanité blottis autour de personnalités hybrides du passé humain, La visite que je rendis aux disciples du Cybride Jésus de Nazareth en Israël et en Palestine nouvelle fut mémorable. Mais lorsque j'entendis le bref silence qui, sur le scripteur, occupait la place de ces histoires, je me souvins de la raison de cette omission. Comme je l'ai déjà dit, j'ai scripté ces mots dans la boîte à chat de Schrödinger en orbite autour d'Armagast, en attendant l'émission d'une particule isotopique et l'activation du détecteur de ces particules, toutes deux simultanées. Quand les deux événements coïncideraient, le gaz de cyanure retenu dans le champ d'énergie statique entourant l'appareil de recyclage de l'air serait libéré dans mon atmosphère. La mort ne serait pas instantanée, mais presque. Bien que j'aie protesté plus tôt que je prendrais mon temps pour raconter notre histoire, celle d'aîné et la mienne, je me rends compte, à présent, qu'il faut que je fasse une certaine mise au point, que je m'efforce d'arriver aux éléments essentiels avant que la particule se désintègre et que le gaz se répande. Je ne vais pas repenser maintenant cette décision, sauf pour dire que les 4 années sur Terre vaudraient la peine d'être narrées à un autre moment. Les 90 membres de la confrérie étaient des gens bien, complexes, tortueux et intéressants comme tous les êtres humains intelligents, et il faudrait raconter leurs histoires. De même, mes explorations de la Terre, à bord du vaisseau de descente et au volant du vieux Break Woody de 1948 que le vieil architecte me prêta, pourrait inspirer un poème épique à elle toute seule. Mais je ne suis pas un poète. Je faisais office de tracker lorsque je guidais les chasseurs. Ici, mon travail consiste à suivre la voie de la transformation d'aînée en femme et en messie, sans me laisser trop dérouter. Et il en sera ainsi. Le vieil architecte parlait toujours de l'enclave de la confrérie comme du campement du désert. La plupart des apprentis l'appelaient Taliesin, qui signifie « front brillant » en gallois. Ashwright était originaire du pays de Galles. Je passais des semaines à essayer de me souvenir d'un monde de la Pax ou des confins appelés pays de Galles, avant de me rappeler que le vieil architecte avait vécu et était mort avant le vol spatial. Aîné appelait souvent cet endroit le Taliesin Ouest, ce qui suggérait, même à quelqu'un d'aussi borné que moi, qu'il devait y avoir un Taliesin East. Quand je lui posais la question 3 ans plus tôt, Aîné m'expliqua que le Wright d'origine avait édifié sa première confrérie de Taliesin au début des années 1930 à Spring Green dans le Wisconsin, cette région étant l'une des subdivisions géographiques et politiques de l'ancien État-nation d'Amérique du Nord appelée les États-Unis d'Amérique. Quand je demandais à Aîné si le premier Taliesin ressemblait à celui-ci, elle répondit
« Non, pas vraiment. Il y a une série de Taliesin dans le Wisconsin, foyer et enclave de la fraternité, mais la plupart furent détruits par le feu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Ashwright a installé ici tant de bassins et de fontaines, des réserves d'eau pour combattre les incendies inévitables. »
Et le premier Taliesin fut construit dans les années 1930.
Wright inaugura sa première confrérie Taliesin en 1932. Ce fut surtout un moyen d'obtenir de ses apprentis du travail gratuit, à la fois pour construire son rêve et produire de la nourriture pendant la crise.
La crise ? Qu'est-ce que c'était ?
Une période de très mauvaises conditions économiques dans un État-nation purement capitaliste, expliqua Aîné. Souviens-toi, l'économie n'était pas vraiment mondiale alors et dépendait d'instructions monétaires privées appelées banques, de réserves d'or et de la valeur de l'argent matériel, de vraies pièces de monnaie, de vrais morceaux de papier, qui étaient censés valoir quelque chose. Ce n'était qu'une illusion consensuelle, bien sûr, et dans les années 1930, elle a tourné au cauchemar.
Mon Dieu !
Ah oui, dit Aîné. En tout cas, longtemps avant, en 1909, après Jésus-Christ, Ashwright, arrivé à la quarantaine, abandonna sa femme et ses 6 enfants et s'enfuit en Europe avec une femme mariée.
J'avoue qu'alors, je fronçais les sourcils. Il me fallut quelques secondes pour m'habituer à l'idée que le vieil architecte, un vieillard de 85 ans lorsque nous l'avions vu pour la première fois, 4 ans auparavant, avait eu une vie sexuelle scandaleuse. Je me demandais aussi quel lien il y avait entre ce fait et ma question sur Taliesin East. Aîné y arriva.
« Quand il revint avec l'autre femme,
dit-elle souriant de mon attention intense,
il construisit le premier Taliesin, son foyer dans le Wisconsin, pour Mama.
Sa mère ? demandai-je, totalement perdu.
« Mama Borswick !»
répondit Aînée en m'épelant le prénom.
« Mrs. Cheney, l'autre femme. »
« Ah !» Son sourire s'évanouit et elle poursuivit.
« Le scandale avait anéanti sa clientèle et fait de lui, aux États-Unis, un homme stigmatisé. Alors il construisit Taliesin et se mit à chercher de nouveaux mécènes. Sa première épouse, Catherine, ne voulait pas lui accorder le divorce. Les journaux, des banques de données imprimées sur papier et distribuées régulièrement, se nourrissaient de ses commérages et attisaient les flammes du scandale au lieu de les laisser mourir. »
Nous étions sortis dans la cour lorsque je posais la question sur Taliesin, et je me souviens de m'être arrêté près de la fontaine pendant cette partie de sa réponse. Les connaissances de cet enfant ne cessaient de me surprendre.
« Puis, enchaîna-t-elle, le 15 août 1914, un ouvrier de Taliesin devint fou, massacra Mama Borswick, son fils John et sa fille Martha avec une hache, enterra leur corps, mit le feu au bâtiment, puis tua 4 des amis et apprentis de Ashwright avant d'avaler de l'acide. Tout a brûlé.
Mon Dieu, murmurai-je en regardant le réfectoire où le cibris du vieil architecte déjeunait parfois avec certains de ses plus anciens apprentis.
Il ne renonça jamais,
reprit Aînée.
Quelques jours plus tard, le 18 août, Ashwright faisait le tour d'un lac artificiel sur les terres de Taliesin lorsque le barrage céda. Il fut précipité dans un ruisseau que la pluie avait grossi. Contrairement à toutes les prévisions, il réussit à nager et à sortir du torrent. Quelques semaines plus tard, il commença la reconstruction du barrage.
Je pensais avoir compris ce qu'elle était en train de me dire sur le vieil architecte. « Pourquoi ne sommes-nous pas dans ce Taliesin-là » demandai-je tandis que nous nous éloignions sans hâte de la fontaine dans la cour déserte.
« Bonne question. Je doute qu'il existe encore sur cette version reconstruite de la Terre. » Ce lieu compta beaucoup pour Ashwright. Il est mort ici, près de Taliesin West, le 9 avril 1959. Mais il a été enterré près de celui du Wisconsin.
Je m'arrêtai alors. Penser au vieil architecte en train de mourir était une chose nouvelle et troublante. Tout dans notre exil avait été stabilité, calme et renouvellement naturel. Mais maintenant, Aînée me rappelait que toute chose et tout être a une fin. Avant que la Pax offre à l'humanité le cruciforme et la régénération physique, bien entendu. Pourtant, personne dans la confrérie, peut-être personne sur cette terre kidnappée, n'était soumis au cruciforme. Cette conversation avait eu lieu 3 ans auparavant. Ce matin, une semaine après la mort du cibrite du vieil architecte et son enterrement incongru dans le petit mausolée qu'il avait édifié dans le désert, nous étions prêts à affronter les conséquences de la mort sans résurrection et de la fin des choses. Pendant qu'Aînée se rendait au pavillon réservé au bain et à la lessive pour faire sa toilette, je croisais Abétic et 2 autres membres fort occupés à faire passer la nouvelle de la réunion dans le pavillon de musique. L'androïde à la peau bleue ne paraissait pas surpris qu'Aînée, la plus jeune d'entre nous, nous convoque ainsi. Depuis plusieurs années, Abétic et moi avions vu en silence la petite fille devenir le lieu géométrique de la confrérie. Je trottais des champs au dortoir, des dortoirs à la cuisine, où je sonnais la grosse cloche de ce clocher extravagant qui surplombait l'escalier menant à l'étage des invités. Les apprentis ou les travailleurs que je ne contacterais pas personnellement l'entendraient et viendraient s'enquérir. Quittant la cuisine où les cuisiniers et quelques apprentis enlevaient leurs tabliers et se lavaient les mains, j'annonçais la réunion aux gens qui prenaient le café dans le grand réfectoire de la confrérie. Cette belle pièce donnait sur les monts McDowell, si bien que certains nous avaient vus arriver, Aînée et moi, et savaient qu'il allait se passer quelque chose. Je passais la tête dans la salle à manger privée, plus petite et inoccupée, de Ashwright, puis me dirigeais jusqu'à la salle de dessin. C'était probablement la pièce la plus attirante du complexe, avec ses longues rangées de tables à dessin, ses classeurs sous le toit de toile en pente, et ces 2 rangées de fenêtres en retrait par lesquelles la lumière matinale entrait à flot. Le soleil était assez haut maintenant pour que ses rayons tombent sur le toit, et l'odeur de la toile chauffée était aussi agréable que la lumière d'un jaune éclatant. Aînée m'avait dit un jour que c'était pour cette impression de vivre sous la tente, de travailler dans la pierre, la toile et la lumière, que Ashright était venu créer dans l'ouest du pays son second Taliesin. 10 ou 12 apprentis traînaient dans la salle de dessin, personne ne travaillait maintenant que le vieil architecte n'était plus là pour leur suggérer des projets, et je leur dis qu'Aîné aimerait bien que nous nous rendions tous dans le pavillon de musique. Personne ne protesta. Personne ne grommela ou ne fit de commentaires sur le fait qu'une gamine de 16 ans demande à 90 aînés de se rassembler au milieu d'un jour ouvrable. Au contraire, les apprentis parurent soulagés d'apprendre qu'elle était revenue et prenaient les choses en main. De là, je me rendis à la bibliothèque où j'avais passé tant d'heures heureuses, puis dans la salle de conférence, éclairée seulement par 4 panneaux lumineux encastrés dans le sol, et annonçai la réunion à ceux qui s'y trouvaient. Ensuite, je longeai au petit trot le chemin bitumé sous le passage couvert en maçonnerie du désert et jetai un coup d'œil dans la salle de spectacle où le vieil architecte se plaisait à nous passer des films le samedi soir. Cet endroit m'avait toujours plu, avec ses murs et son toit de pierre, ses rangées de bancs en contreplaqué couverts de coussins rouges et ses guirlandes de lumignons blancs courant au plafond. En arrivant, nous avions été stupéfaits, Aîné et moi, de découvrir que le vieil architecte exigeait de ses apprentis et de leurs familles qu'ils s'habillent pour le dîner du samedi soir, revêtent d'anciens smokings et des cravates noires, comme on n'en voyait que dans les plus anciens holos d'histoire. Les femmes portaient d'étranges robes remontant à l'Antiquité. Ashright fournissait ses vêtements de cérémonie à ceux qui n'en avaient pas apporté en venant sur Terre, par les tombeaux du temps ou les distrances. Le premier samedi, Aîné se présenta vêtu d'un smoking, d'une chemise et d'une cravate au lieu d'une des robes qui lui avait été fournie. Quand je vis l'air choqué du vieil architecte, je me dis qu'il allait nous exclure de la confrérie et nous obliger à subsister misérablement dans le désert, mais un sourire plissa son vieux visage, puis il éclata de rire. Il ne demanda jamais à Aîné de s'habiller autrement. Après le dîner cérémonieux du samedi soir, nous avions droit soit à un concert, soit à un film, une de ces anciennes bobines en celluloïde qu'on venait projeter avec une machine. C'était un peu comme d'apprendre à apprécier l'art des cavernes. Aîné et moi, nous adorions les films qu'il choisissait, de vieilles images plates du XXe siècle, la plupart en noir et blanc. Pour une raison qu'il n'expliqua jamais, Ashright préférait les regarder avec la piste sonore dont les sautillements et frétillements optiques étaient visibles sur l'écran. En fait, au bout d'un an de projection, l'un des apprentis nous apprit que ces films étaient faits pour être visionnés sans elle. Aujourd'hui, la salle de spectacle était vide, les lumignons éteints. Je repartis au trot de pièce en pièce, de bâtiment en bâtiment, rassemblant étudiants, apprentis, ouvriers et familles, jusqu'à ce que je retrouve Abétique près de la fontaine et que nous rejoignions les autres dans le vaste pavillon de musique. C'était une grande salle avec une large scène et 6 rangées de 18 sièges capitonnés. Les murs étaient en bois de séquoia peint en rouge Cherokee, la couleur préférée du vieil architecte, et en maçonnerie épaisse du désert. Seul un piano à queue et quelques plantes vertes meublaient la scène habillée d'une moquette rouge. Au-dessus de nos têtes, il y avait l'habituelle toile blanche, tendue sur un cadre d'entretoise de bois et d'acier. Aîné me dit un jour qu'après la mort du premier Wright, le plastique avait remplacé la toile, libérant les utilisateurs de la nécessité de remplacer celle-ci tous les 2 ou 3 ans. Mais après le retour de ce Ashright, on avait arraché le plastique, ainsi que les vitres au-dessus de la salle de dessin, pour qu'une lumière pure traverse de nouveau la toile blanche. Abétique et moi restâmes dans le fond de la salle, tandis que les apprentis et les autres travailleurs s'asseyaient en chuchotant. Certains maçons préférèrent demeurer debout sur les marches des bas-côtés ou derrière, avec l'androïde et moi, comme s'ils avaient peur de mettre de la boue et du sable sur la luxueuse moquette et sur les sièges. Quand Aîné franchit les rideaux latéraux et sauta sur la scène, toutes les conversations cessèrent. L'acoustique était bonne dans le pavillon de musique, mais Aîné avait toujours su projeter sa voix sans avoir à l'amplifier. Elle parla doucement.
« Merci d'être venu. J'ai pensé que nous devrions discuter. »
Jaef Peters, l'un des plus anciens apprentis, se leva aussitôt au 5e rang.
« Vous étiez parti, Aîné, encore dans le désert. »
La jeune fille hocha la tête. Avez-vous parlé aux lions, aux tigres et aux ours ? Dans l'auditoire, personne ne gloussa ni ne ricana. Il faut que je précise que la question était posée avec un sérieux mortel et que 90 personnes attendaient tout aussi gravement la réponse. Tout cela remontait au cantos que Martin Silenus avait écrit plus de 2 siècles auparavant. L'histoire des pèlerins d'Hyperion, du Gritch et de la bataille entre l'humanité et le technocentre expliquait comment les premiers réseaux du cyberespace avaient évolué en infosphère planétaire. Au temps de l'hégémonie, le technocentre des IA avait utilisé leur technologie secrète du distrans et du canal large pour tisser des centaines d'infosphères en un unique milieu interstellaire secret de l'information, appelé la mégasphère. Mais, selon les Cantos, le père d'aîné, le cybride de John Keats, avait voyagé sous la forme d'une infopersonne désincarnée jusqu'au centre de la mégasphère et découvert qu'il existait un milieu plus grand de l'infoplan, peut-être plus vaste que notre galaxie, que même les IA du centre avaient peur d'explorer parce qu'il était plein de lions, de tigres et d'ours. Telles furent les paroles de l'IA Humon. C'étaient les êtres ou les intelligences ou les dieux, pour ce que nous en savions, qui avaient kidnappé et transporté la Terre ici avant que le centre puisse la détruire il y a 1000 ans de cela. Ces lions, ces tigres et ces ours étaient les gardiens croque-mitaines de notre monde. Personne de la confrérie n'avait jamais vu aucune de ces entités, ou ne leur avait parlé, ou ne possédait une preuve valable de leur existence. Personne, sauf aîné.
« Non, » dit la jeune fille debout sur la scène. « Je ne leur ai pas parlé. »
Elle baissa les yeux comme embarrassée. Elle ne faisait toujours allusion à eux qu'avec réticence.
« Mais je les ai entendus. »«
Ils vous ont parlé ?»
s'exclama Jaef Peters. Un profond silence régnait dans le pavillon de musique.
« Non, je n'ai pas dit cela. Je les ai juste entendus. Un peu comme lorsque vous surprenez une conversation à travers une cloison. »
Un frémissement d'amusement parcourut la salle. Malgré l'épaisseur des murs de pierre des bâtiments de la confrérie, tout le monde savait que les cloisons des dortoirs étaient terriblement minces.
« Bon !»
fit Beth Kimball au premier rang. C'était le chef cuisinier, une grande et forte femme sensée.
« Répétez-nous ce qu'il disait !»
Aîné s'avança au bord de la scène tapissée de rouge et regarda ses collègues et aînés.
« Je peux vous apprendre ceci, »
énonça-t-elle d'une voix douce.
« Il n'y aura plus de nourriture ni de fourniture en provenance du marché indien. Il a disparu. »
Ce fut comme si elle avait lancé une grenade dans le pavillon de musique. Quand la rumeur commença à s'apaiser, un des maçons les plus costauds, un homme appelé Hussan, cria plus fort que le tumulte.
« Il a disparu ! Que voulez-vous dire ? Où trouverons-nous notre nourriture ?»
Il y avait de bonnes raisons de paniquer. À l'époque de Frank Lloyd Wright, au XXe siècle, son camp de la fraternité, établi dans le désert, se trouvait à 50 kilomètres d'une grande ville appelée Phoenix. Contrairement aux Taliesin du Wisconsin créés au moment de la crise où les apprentis cultivaient la terre fertile tout en travaillant au plan des constructions de Wright, ce campement du désert n'avait jamais pu faire pousser sa propre nourriture. Aussi allaient-ils en voiture à Phoenix faire du troc ou bien dépenser leurs pièces de monnaie, leurs billets primitifs, afin d'acquérir les provisions indispensables. Pour survivre au jour le jour, le vieil architecte avait toujours compté sur les largesses de mécènes sous la forme de gros emprunts jamais remboursés. Ici, dans notre campement du désert réorganisé, il n'y avait pas de ville. L'unique route vers l'ouest, 2 ornières remplies de gravier, ne menait qu'à 100 kilomètres désertiques. Je le savais parce que je l'avais survolé en vaisseau de descente et emprunté au volant du véhicule terrestre du vieil architecte. Mais à environ 30 clics du complexe, se tenait une fois par semaine un marché indien où nous échangions les produits de notre artisanat contre de la nourriture et des matières premières essentielles. Il était déjà là des années avant notre arrivée. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y soit toujours.
« Il a disparu. Que voulez-vous dire ?»
répéta Hussan d'une voix rauque.
« Où les Indiens iraient-ils ? Était-ce des illusions hybrides comme Ash Wright ?»
Aîné fit un geste des deux mains auquel je m'étais habitué au cours des années, mouvement gracieux de rejet que je finis par considérer comme une analogie physique de l'expression zen « mu », qui, dans un contexte approprié, peut signifier « ne posez pas la question ».
Le marché a disparu parce que nous n'en avons plus besoin,
dit Aîné.
Les Indiens sont réels, Navajo, Apache, Hopi et Zuni, mais ils ont leur propre vie à mener, leurs propres expériences à faire. Leur commerce avec nous était une faveur.
En entendant cela, la foule se mit en colère, mais finit par se calmer. Betts Kimball se leva.
« Que devons-nous faire, enfant ?»
Aîné s'assit au bord de la scène comme pour tenter de ne plus faire qu'un avec l'auditoire en attente.
« La confrérie, c'est terminé. Cette partie de nos vies doit prendre fin. »
L'un des plus jeunes apprentis cria du fond du pavillon.
« Non, c'est impossible ! Ashwight peut encore revenir ! C'était un cybride, souvenez-vous, une machine ! Le centre, ou bien les lions, les tigres et les ours, qui que ce soit qui les construit peuvent nous le renvoyer !»
Aîné secoua tristement mais fermement la tête.
« Non, Ashwright est parti à jamais. La confrérie, c'est fini. Sans la nourriture et les matériaux que les Indiens nous apportaient de très loin, ce campement du désert ne durera pas un mois. Il faut partir. »
Ce fut une jeune apprentie, appelée Perrette, qui prit calmement la parole dans le silence.
« Pour aller où, aîné ?»
Ce fut peut-être à ce moment que je pris conscience pour la première fois que ce groupe tout entier s'était remis entre les mains de la jeune femme que j'avais connue enfant. Tant que le vieil architecte avait été là pour donner des cours, tenir des séminaires et mener les discussions dans la salle de dessin, emmener son troupeau pique-niquer et nager dans les montagnes, réclamer de la sollicitude et une meilleure nourriture, tout cela avait masqué les fonctions de chef d'aîné. Mais maintenant, elle devenait évidente.
« Oui !»
cria quelqu'un d'autre dans les rangées centrales.
« Où, aîné ?»
Mon ami leva les mains avec un autre geste que j'avais compris. Plutôt que « ne posez pas la question », celui-là signifiait « vous devez répondre à votre propre question ». Tout haut, elle dit
« il y a deux possibilités. Chacun de vous est venu ici soit par des portails d'Istrans, soit par les tombeaux du temps. Vous pouvez retourner par les d'Istrans. »
« Non ! Comment pourrions-nous ? Jamais ! Plutôt mourir ! Non ! La Pax nous retrouvera et nous tuera !»
Les cris fusaient du cœur. C'était la terreur faite verbe. Je humais la peur dans la pièce, comme autrefois celle des animaux pris par la patte dans les pièges que je posais dans les Landes d'Hyperion. Aîné leva les mains, et les cris s'affaiblirent.
« Vous pouvez retourner dans l'espace de la Pax par les d'Istrans, ou rester sur Terre et tenter de vous débrouiller tout seul. »
Il y eut des murmures, et je perçus le soulagement qu'ils éprouvaient à l'idée de ne pas rentrer. Je comprenais ce sentiment. La Pax était devenue pour moi aussi un épouvantail. L'idée d'y retourner me tirait du sommeil, tout suffoquant, au moins une fois par semaine.
« Mais si vous restez ici ?»
poursuivit la jeune fille assise au bord de la scène de concert de Ashwright.
« Vous serez des parias. Tous les groupes humains de cette planète sont impliqués dans leurs propres projets, mènent leur propre vie. Vous ne les intégrerez pas. »
Les gens crièrent des questions, exigèrent des réponses aux mystères qu'ils n'avaient pas compris durant leur long séjour ici. Mais Aîné poursuivit ce qu'elle avait à dire.
« Si vous restez ici, vous gâcherez tout ce que Ashwright vous a enseigné et ce que vous avez appris par vous-même. La Terre n'a pas besoin d'architectes et de bâtisseurs. Pas maintenant. Il faut retourner là-bas. »
Jeff Peters prit de nouveau la parole. Sa voix était froide, mais pas irritée. « Et la Pax a besoin de bâtisseurs et d'architectes pour construire des églises consacrées à ces damnés croix. »
« Oui. »
Jeff abattit son gros poing sur le dossier du siège qui était devant lui.
« Ils vont nous emprisonner ou nous tuer s'ils apprennent qui nous sommes. D'où nous venons ?»
« Oui. »
Betts Kimball dit.
« Allez-vous rentrer, fillette ?»«
Oui, »
répondit Aîné en sautant de la scène. Tout le monde était debout maintenant, criait ou parlait à ses voisins. Ce fut Jaef Peters qui exprima les pensées des 90 orphelins de la confrérie. « Pouvons-nous venir avec vous, Aîné ?» La jeune fille soupira. Son visage, bien qu'aussi hâlé et éveillé que ce matin, semblait fatigué.
« Non. Je pense que partir d'ici, c'est comme mourir ou naître. Chacun de nous doit le faire seul. »
Elle sourit.
« Ou en très petits groupes.
la salle devint soudain silencieuse. Quand Aîné parla, ce fut comme si un instrument reprenait là où l'orchestre s'était arrêté.
« Roll partira le premier, » dit-elle. « Ce soir, un par un, chacun de vous trouvera le bon portail d'Istrance. Je vous y aiderai. Je serai la dernière à quitter la terre. Et je m'en irai dans quelques semaines. Nous devons tous partir. »
Les gens s'avancèrent alors, toujours en silence, pour se rapprocher de la jeune fille aux cheveux coupés courts.
« Mais certains d'entre nous se rencontreront de nouveau, »
dit Aîné.
« J'en suis certaine. »
J'entendis le côté négatif de cette prédiction rassurante. Certains d'entre nous ne survivraient pas.
« Eh bien !»
rugit Betskimbal, son gros bras passé autour des épaules d'Aîné.
« Nous avons assez de nourriture dans la cuisine pour faire un dernier festin. Vous vous souviendrez longtemps du déjeuner de demain. Comme disait ma maman, ne pars jamais le ventre vide. Qui va m'aider à faire la cuisine ?»
La foule se dispersa, famille et amis regroupés, les solitaires demeurant sur place comme assommés, tout le monde se rapprochant d'Aîné tandis que nous commencions à sortir en file indienne du pavillon de musique. J'avais envie de l'attraper par les épaules, de la secouer jusqu'à ce que ses dents tombent et de lui demander « Que diantre veux-tu dire ? Roll partira le premier ? Ce soir ? Merde ! Qui es-tu pour me dire que je dois te laisser derrière moi ? Comment penses-tu m'obliger à faire une chose pareille ?» Mais elle était trop loin et trop de gens se pressaient autour d'elle. Le mieux que je puisse faire, c'était de suivre à grands pas la foule qui se dirigeait vers la cuisine et la salle à manger, mais la colère était visible sur mon visage, mes poings, mes muscles et dans ma démarche. Une fois, je vis Aîné jeter un coup d'œil en arrière, s'efforçant de m'apercevoir par-dessus les têtes de ceux amassés autour d'elle, et ses yeux me suppliaient. « Laisse-moi t'expliquer. » Je lui rendis son regard d'un œil froid, sans rien lui accorder. Le crépuscule s'annonçait lorsqu'elle me rejoignit dans le grand garage que Ash Wright avait fait construire à un demi-clic à l'est du complexe. Le bâtiment n'était fermé que par des rideaux de toile, mais d'épaisses colonnes de pierre soutenaient un toit permanent en bois de séquoia. Il avait été conçu pour abriter le vaisseau de descente dans lequel Aîné, Abétik et moi étions arrivés. J'avais ouvert la grande porte de toile, et j'étais dans le sas du vaisseau de descente lorsque je vis Aîné arriver à travers le désert. Le bracelet Persoc que je n'avais pas porté depuis plus d'un an était à mon poignet. Il contenait la plus grande partie de la mémoire de notre ex-astronef, le vaisseau du consul vieux de plusieurs siècles. Il avait été mon moyen de communication et mon instructeur lorsque j'avais appris à piloter le vaisseau torche. Je n'en avais plus besoin. La mémoire du Persoc avait été transférée dans celle du vaisseau de descente et je pilotais plutôt bien ce dernier tout seul, mais avec le bracelet, je me sentais plus en sécurité. Le Persoc était en train d'effectuer une vérification des systèmes du vaisseau. Il bavardait tout seul, pourrait-on dire. Aîné s'arrêta, une fois franchie la toile repliée. Le soleil couchant projetait une ombre longue derrière elle et teintait la toile de rouge.
« Comment va le vaisseau de descente ?»
demanda-t-elle. Je jetai un coup d'œil sur l'écran du Persoc.
« Très bien, »
grommelai-je sans la regarder.
« A-t-il assez de carburant et de charge pour effectuer un autre vol ?»
Toujours sans lever les yeux, je dis en tripotant les plaques d'affichage sur le bras du fauteuil de pilotage. « Ça dépend de sa destination. » Aîné s'avança jusqu'à l'escalier du vaisseau de descente et me toucha la jambe.
« Roll ?»
Cette fois, je dus la regarder.
« Sois pas fâché. Nous sommes obligés de faire ça. »
J'écartai brusquement ma jambe.
« Nom de Dieu, arrête un peu de me dire ce qu'il faut faire. Aux autres aussi, d'ailleurs. Tu n'es qu'une gamine. Peut-être qu'y a-t-il des choses que certains d'entre nous ne sont pas obligés de faire. Partir tout seul et te laisser ici, par exemple. »
Je descendis de l'échelle et appuyai sur une touche du Persoc. Les marches se remorfèrent dans la coque. Je quittai le garage et me mis en marche dans le désert. À l'horizon, le soleil dessinait une sphère rouge parfaite. Baignés des derniers rayons rasants du soleil, les pierres et la toile du complexe principal semblaient avoir pris feu. La plus grande peur du vieil architecte.
« Roll, attends-moi !»
Aîné pressa le pas pour me rattraper. Un coup d'œil vers elle me dit qu'elle était épuisée. Tout l'après-midi, elle avait rencontré des gens, leur avait parlé et expliqué les choses, les avait rassurés,
serré dans ses bras. J'en arrivais à penser à la confrérie comme à un nid de vampires émotionnels dont Aîné était la seule source d'énergie.
« Tu as dit que tu... »
commença-t-elle.
« Oui, oui !»
interrompis-je. Brusquement, j'avais l'impression que c'était elle l'adulte, et moi l'enfant irascible. Pour dissimuler ma confusion, je me détournais une fois de plus et contemplais les dernières lueurs du couchant. Pendant une minute ou deux, nous restâmes silencieux à regarder la lumière s'évanouir et le ciel s'obscurcir. J'avais décidé que les couchers de soleil de la Terre duraient plus longtemps et étaient plus beaux que ceux de mon enfant sur Hyperion, et dans le désert, ils me semblaient particulièrement admirables. Combien de couchers de soleil avions-nous partagé, cet enfant et moi, depuis 4 ans? Et combien de soirées indolentes, de dîners et de conversations sous les brillantes étoiles du désert? Ce couchant pourrait-il vraiment être le dernier que nous contemplerions ensemble? Cette idée me donna la nausée et me rendit furieux.
« Roll ?»
redit-elle lorsque les ombres se furent rassemblées et que l'air fraîchit.
« Tu veux bien m'accompagner ?»
Je ne dis pas oui, mais la suivis sur le terrain rocailleux en évitant dans la pénombre les épis en forme de baïonnette des yuccas et les épines des cactus bas, jusqu'à ce que nous arrivions dans la zone éclairée du complexe. « Dans combien de temps ?» me demandai-je. Le fioul des générateurs sera-t-il épuisé? La réponse, je la connaissais, car entretenir et alimenter les générateurs faisait partie de mon travail. Nous avions 6 jours de carburant dans les réservoirs principaux et 10 jours dans les réservoirs de secours auxquels on ne touchait jamais, sauf en cas d'urgence. Le marché indien ayant disparu, il n'y aurait plus aucun moyen de se réapprovisionner. Il restait pour environ 3 semaines de lumière, de réfrigération et d'alimentation des appareils électriques. Et ensuite, quoi? L'obscurité, le pourrissement, et la fin de ces constructions, démolitions et reconstructions incessantes qui constituaient mon bruit de fond à Taliesin depuis 4 ans. Je croyais que nous nous dirigions vers le réfectoire, mais nous passâmes devant les fenêtres éclairées, des groupes de gens encore assis à table, parlant gravement. Jetèrent un coup d'œil sur Aîné, il ne me voyait plus en ces temps de panique, et nous arrivâmes au studio de dessin bureau de Ash Wright, mais sans nous y arrêter. Pas plus que dans la belle salle de conférence où un petit groupe visionnait un dernier film. Dans 3 semaines, l'appareil de projection ne fonctionnerait plus, ni dans la grande salle de dessin. Notre destination était un atelier de pierre et de toile tout au bout de l'allée sud, un bâtiment où l'on pouvait manipuler des produits chimiques toxiques ou des équipements bruyants. J'avais souvent travaillé là au cours de nos 2 premières années à la confrérie, mais pas ces derniers mois. Abétic nous attendait sur le seuil de la porte. Un léger sourire flottait sur son visage bleu et neutre, un peu semblable à celui qu'il avait arboré en apportant le gâteau d'anniversaire d'Aîné. «
Qu'y a-t-il »
demandai-je encore irrité, passant du visage las de la jeune fille à l'expression béate de l'androïde. Aîné entra dans l'atelier et alluma la lumière. Sur l'établi, au centre de la petite pièce, reposait un bateau qui ne faisait pas beaucoup plus de 2 mètres de long. Il avait la forme d'une gaine épointée aux extrémités et ne comportait qu'une seule ouverture ronde pourvue d'une jupe de nylon que l'occupant pourrait serrer autour de sa taille. Il y avait une pagaie double sur la table à côté de l'embarcation. Je m'approchai et fis courir ma main sur la coque en fibre de verre poli, avec des entretoises et des équipements internes en aluminium. Une seule personne de la confrérie pouvait accomplir un travail aussi minutieux. Je regardais Abétic d'un air presque accusateur. Il hocha la tête.
« On appelle ça un kayak !»
dit Aîné en passant aussi la main sur la coque lisse.
« C'est une ancienne conception terrienne. »«
J'ai vu des variations sur ce thème, » répliquai-je en refusant de montrer combien j'étais impressionné. Les rebelles d'Ursus à la griffe de glace utilisaient des petits bateaux comme celui-là. Aîné caressait toujours la coque qui absorbait toute son attention. C'était comme si je n'avais rien dit.
J'ai demandé à Abétic de le construire pour toi. Cela lui a pris 3 semaines de travail.
Pour moi, dis-je d'un ton las. Mon estomac se serra lorsque je compris ce qui allait suivre. Aîné se rapprocha. Elle se planta juste sous la lampe suspendue. Les ombres sous ses yeux et ses pommettes lui prêtaient plus de 16 ans.
Nous n'avons plus le radeau, Roll.
Je savais de quoi elle parlait. du radeau qui nous avait transportés sur tant de monde jusqu'à ce qu'il se brise en morceaux dans l'embuscade qui avait failli nous tuer sur le bosquet de Dieu. Celui sur lequel nous avions descendu la rivière sous la glace, sur sol Draconiseptem, traversé les déserts d'Hébron et de Comriad, navigué sur l'océan planétaire de Mare Infinitus. Je savais de quel radeau elle parlait. Et je savais ce que ce bateau signifiait. Alors, je vais repartir par le chemin que nous avons suivi. Je levai la main comme pour toucher le kayak, mais ne le fis pas.
Pas celui par lequel nous sommes venus, répliqua Aîné. Mais sur le fleuve Tétis, à travers d'autres mondes. Autant de mondes qu'il faudra pour retrouver le vaisseau.
Le vaisseau ? Nous avions laissé l'astronef du consul caché dans le lit d'une rivière où il réparait tout seul les dégâts qu'il avait subis lors de notre fuite de la Pax sur une planète dont nous ignorions le nom et la localisation. Ma jeune amie hocha la tête et les ombres disparurent, puis se regroupèrent sous ses yeux-là.
Nous allons avoir besoin du vaisseau, Roll. Si tu le veux bien, j'aimerais que tu descendes le fleuve Tétis dans ce kayak jusqu'à ce que tu retrouves le vaisseau. Et ensuite que tu le conduis sur le monde où Abétik et moi t'attendrons.
Un monde de l'espace de la Pax, dis-je l'estomac de nouveau noué, face au danger que renfermait cette simple phrase.
Oui. Pourquoi moi ?
Demandai-je, lançant un regard éloquent sur Abétik. J'avais honte de ce que je pensais alors.
Pourquoi envoyer un être humain, ton meilleur ami, et pas l'androïde ?
Je baissai les yeux.
« Ce sera une expédition périlleuse, » dit Aîné. « Je crois que tu peux le faire, Roll. Je te fais confiance pour trouver le vaisseau et nous rejoindre ensuite. »
Je sentis mes épaules s'affaisser.
« D'accord.
Faut-il retourner à l'endroit où nous sommes arrivés ici, par le portail d'Istrance ? » Nous étions passés du bosquet de Dieu à un petit ruisseau qui coulait près du chef-d'œuvre du vieil architecte à Cascatel. Il faudrait traverser les deux tiers du continent.
« Non. » Plus près, sur le Mississippi.
D'accord, répétai-je. J'avais survolé le Mississippi. Il coulait à près de 2000 clics à l'est d'ici.
Quand dois-je partir ?
Demain. Aînée toucha mon poignet.
Non,
dit-elle d'une voix lasse mais ferme.
Ce soir, tout de suite.
Je ne protestais pas. Je ne discutais pas. Sans rien dire, je pris le kayak par la proue, Abétik par la poupe, Aîné soutint le centre, et nous transportâmes ce sacré truc jusqu'au vaisseau de descente dans la nuit de plus en plus profonde du désert.